Bonsoir, bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce tout nouveau format inauguré ce soir à la librairie Mola, qui est une rencontre croisée avec trois jeunes autrices et auteurs de cette rentrée littéraire 2022. Nous recevons donc ce soir Pauline Delabroix-Allard. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Vous êtes l'autrice de l'un des romans très remarqués de la rentrée littéraire 2018, Ça raconte Sarah, publié aux éditions de Minuit. Vous venez nous présenter ce soir votre deuxième roman, Qui sait, publié aux éditions Gallimard, où la narratrice Pauline tente à 30 ans de comprendre ce qui se cache derrière les prénoms inscrits sur sa carte d'identité. Ces prénoms sont Jeanne, Jérôme et Isée. Vous êtes aussi l'autrice de deux albums jeunesse parus chez Thierry Magnier et d'un recueil de poésie intitulé Maison Tanière, publié à l'Iconoclaste. En face de moi, j'ai Blandine Rinkel. Bonsoir Blandine.
Bonsoir.
Vous venez nous présenter ce soir votre troisième roman. Après deux romans remarqués, L'abandon des prétentions, paru en 2017, et Le nom secret des choses, paru en 2019 chez Fayard, ainsi que L'essai Tout tremble, paru au PUF. Vous êtes aussi membre du groupe Catastrophe, dont le dernier album en date, Gong, est sorti chez Tricatel en 2020. Un troisième roman, donc, intitulé Vers la violence, toujours publié chez Fayard, un roman puissant et marquant qui interroge avec vivacité les représentations féminines et masculines et qui raconte comment Lou, une jeune fille qui idéalisait son père, policier, est confrontée à ses mensonges, ses coups de colère et à sa violence. Et enfin, Victor Gestin. Bonsoir, Victor.
Bonsoir.
Vous venez me présenter ce soir votre deuxième roman, L'homme qui danse, publié chez Flammarion, après un premier roman, La chaleur, publié en 2019. Donc après le camping des Landes, qui était le décor de votre premier roman, vous vous situez celui-ci dans un autre décor peu abordé dans la littérature, les boîtes de nuit des petites villes, et on suivra le parcours d'Arthur, un homme terriblement timide qui cherche désespérément un sens à sa vie, en se rendant inlassablement en boîte tous les soirs. Alors, afin d'introduire cette rencontre et avant de parler en détail de ces trois livres, je souhaiterais vous demander, parce que je trouve qu'il y a de manière très différente, mais quelque chose de commun en fait dans ces trois ouvrages, c'est la question du passage à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui, pour vous, en tant qu'auteur et autrice, c'est finalement de devenir adulte? Pauline Delabroix, alors.
Moi, je ne sais pas si je suis devenue adulte, en fait. Enfin, je n'ai pas ce sentiment-là pour l'instant. Donc, pour parler de moi, mais pour parler de ma narratrice, elle prend conscience de ça de manière très violente au moment où elle est enceinte et où elle s'apprête à donner la vie. Et elle se rend compte, à cette occasion-là, qu'elle a été élevée dans une espèce de monde silencieux où sa famille présente, pourtant aimante, pourtant, n'a simplement... est une famille sans histoire, mais pas sans histoire dans le sens où ils n'en ont pas, mais où ils n'en racontent pas. On n'a pas d'histoire de famille, il n'y a pas de photo de famille. Et vraiment, c'est cette espèce de bulle de silence dans laquelle elle a grandi qui lui fait prendre conscience que peut-être devenir adulte, c'est avoir quelque chose à raconter, en tout cas vouloir raconter quelque chose. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de ça et qu'elle cherche à retourner sur ses origines.
Victor Gestin.
Pareil, en ce qui me concerne, le passage à l'âge adulte, j'ai l'impression de ne pas le sentir, en fait, que ça se fait comme ça, lentement, sans que je me rende compte de rien. Après, le personnage, lui, c'est plus radical. Ce personnage donc, qui passe 20 ans de sa vie en boîte de nuit et qui engrange un tel retard dès l'enfance et l'adolescence, un tel retard sur les injonctions qui lui sont faites, que lui le devient jamais vraiment adulte, en fait. Si devenir adulte, c'est, je suppose, acquérir un certain nombre de codes sociaux, pour le meilleur et pour le pire, lui n'en prend aucun, quoi. Et reste donc de plus en plus inadapté, de plus en plus... c'est de plus en plus impossible pour lui de se mouvoir dans ce monde d'adulte. Donc, je pense qu'il reste une sorte de, oui, d'adolescent attardé, on le regarde comme ça.
Et Blandine Rinkel ?
Même première partie de réponse. et puis pour ma narratrice Lou, je pense que c'est quelque chose de physique. Elle devient jamais, enfin je pense qu'elle est, comme nous, elle devient pas adulte d'un coup, mais physiquement peut-être qu'elle s'émancipe de l'autorité d'un père en même temps qu'elle rend hommage à l'éducation qu'elle a reçue de ce même père. Et c'est peut-être ce double mouvement à la fois d'émancipation et de regarder en face ce dont on hérite qui l'a fait, je sais pas si devenir adulte, mais qui l'a fait grandir, ouais.
Un autre point commun qui en fait justifie en fait votre présence, c'est le fait que vous avez eu une certaine reconnaissance avec vos premiers romans Et je voudrais savoir si cette reconnaissance, tant publique que critique, a eu une incidence sur l'acte d'écrire un deuxième ou un troisième roman, comme c'est votre cas, Blandine. Puisqu'on sait que c'est très difficile. En tant que libraire, moi, je peux témoigner en fait, de la difficulté, non pas qu'à un auteur à écrire, mais de la temporalité de la vie d'un livre en librairie, surtout en cette période de rentrée littéraire, où tout, malheureusement, va très vite. Est-ce que, justement, cette reconnaissance a eu une incidence sur votre acte de création? Je vous donne la parole, Pauline.
C'est toujours moi qui commence.
Bon, on va faire ça, c'est plus simple.
Mais en réalité, je veux bien répondre. Je prenais juste un instant pour réfléchir. Moi, ça m'a absolument épuisé ce qui s'est passé autour de mon premier roman, dans le sens où vraiment un épuisement physique que je raconte en fait dans mon recueil de poèmes Maison Tanière, qui est construit en deux parties. La deuxième partie, ça s'appelle Journal des jours couchés, et ça raconte un été entier où j'ai plus pu me lever. En fait, j'étais vraiment couchée, et où du coup j'avais comme principe, pour quand même me maintenir dans une routine d'écriture, de photographier chaque matin un plafond de la maison dans lequel je me trouvais, donc en allant me coucher dans toutes les pièces successivement. Y compris des pièces dans lesquelles on se couche jamais, la cuisine, les toilettes, la salle de bain, et à partir de ces photos de plafond d'écrire des poèmes et qui sont des poèmes vraiment pas très gais, parce que justement je me sentais dans un épuisement total et j'avais qu'une peur, c'était de ne plus jamais écrire. Mais je crois qu'en fait, en réalité, c'est pas une question de succès ou pas, c'est une question d'avoir terminé un ouvrage et de je crois qu'on ressent tout et tout ce sentiment que ça n'arrivera plus en fait, et que il va falloir travailler dur pour se remettre sur le chemin de l'écriture. Enfin, je sais pas si c'est partagé autour de moi.
Moi, je trouve que ce qui pèse surtout, c'est pas d'avoir un livre qui a marché ou pas, c'est vraiment d'en avoir un derrière. Le premier, on l'a, enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai senti que j'écrivais dans un état vraiment vierge, quoi. C'est-à-dire, j'attendais rien, c'est la première fois que je faisais ça. Et là, je me retrouve à écrire un deuxième livre en pensant sans cesse au premier. Il y a une dialectique qui est super intéressante parce que ça met en regard des thématiques qui m'intéressent, des choses qui reviennent. Et en même temps, il faut y faire attention, évidemment. Après, sur la partie plus, peut-être moins intéressante, un peu plus professionnelle purement, je me suis surpris à certains moments à penser à la réception du texte, à me dire qu'est-ce que va penser alors mon éditrice, ça c'est pas très grave, ou pire, telle personne qui a du pouvoir. Ça m'est arrivé, et je pense que ça arrive, je pense que ça nous guette tous à différents degrés, et qu'il faut ça, il faut le jeter évidemment pour écrire tranquillement. Et en même temps, je pense aussi que ouais, des fois, je suis impressionné par des écrivains qui ont fait 15 livres ou des réels qui ont fait 15 films. Et souvent, la réponse qui m'a été faite par ces gens, c'est qu'ils ont beau avoir fait 15 œuvres, à chaque fois, ils oublient en fait. Ils oublient comment ils ont fait la précédente et ils semblent repartir de zéro. C'est terrifiant et excitant aussi.
Moi, j'ai pas tellement eu le sentiment d'avoir une reconnaissance surdimensionnée, en fait. Donc, j'ai pas du tout senti de poids ou quoi que ce soit. C'est peut-être aussi parce que je fais de la musique à côté et qu'en fait, je suis dans une sorte de mouvement. Enfin, moi, je me mets pas soudain à écrire. En fait, j'écris depuis que j'ai, je sais pas, 11 ans. J'écris, en fait. Enfin, c'est ma colonne vertébrale. C'est ce qui me permet de pas perdre la boule en faisant plusieurs activités. C'est vraiment une colonne vertébrale. Donc j'écrivais depuis longtemps, je continue à écrire. J'ai pas du tout eu ce sentiment d'être attendu. En fait, pas du tout. Même, c'est peut-être un peu inquiétant d'ailleurs, mais j'avais pas du tout le sentiment d'être attendu. Donc non, ça n'a pas été une pression. J'ai pas pensé, par exemple, à... Je comprends très bien cette crainte, parce que c'est vrai que je pense que c'est pas très sain d'écrire en se disant qu'est-ce qu'on va penser de ce que je produis. J'ai pas vraiment eu ça, peut-être aussi parce que j'avais l'idée que un premier livre, on vous découvre. Un deuxième livre, il faut faire en sorte qu'on vous découvre à nouveau, c'est-à-dire retirer des couvertures. Enfin, moi, c'est comme ça, en tous les cas, que j'envisage l'écriture. Je me dis, tiens, quelle est l'ombre ? Je fais un premier livre, voilà, on met le soleil sur quelque chose. Quelle est l'ombre de ça ? Il y a toujours une ombre, en fait, quoi. Donc, deuxième livre, tiens, quelle est l'ombre de ça ? Et là, j'ai l'impression que ce troisième livre, c'est l'ombre de mes précédents livres. Et c'est une manière aussi de clôturer un cycle, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je réfléchis toujours en termes d'ombre et de ce qui a été tué, de ce qui n'a pas été dit et de ce qu'on peut encore découvrir, vraiment, étymologiquement, quoi. Retirer la couverture.
Est-ce que vous pouvez nous parler, Blandine, puis on va refaire le tour dans ce sens-là, justement du choix de la fiction. Parce qu'un des points communs encore de vos ouvrages, c'est le choix du discours direct à la première personne du singulier. C'est-à-dire que les narrateurs disent « je », ils ont tous un prénom, que ce soit celui de l'auteur qui écrit ou un autre prénom. On pourrait se dire qu'en 2022, le choix de la fiction n'est pas forcément évident. Et en quoi, justement, vu que sur votre livre, Pauline, il y a bien précisé roman et pas récit, justement, comment, pourquoi, voilà, fictionnaliser son écriture?
Je pense qu'il est précisément nécessaire en 2022. Je crois aussi parce qu'on a, de manière générale, politiquement, on a du mal à cerner ce qui nous arrive, et je crois vraiment à la force de la fiction pour ça, qu'il faut créer des mythes. En tous les cas, moi, avec ce livre, alors à échelle très modeste, hein, mais j'ai essayé de faire de mon personnage Gérard quelque chose de mythologique, de mythique, c'est-à-dire parler d'un père, donc le père de Lou dans le livre, mais parler aussi du père, et d'un père né en 1954, donc d'un baby-boomer, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut dire des baby-boomers? Qu'est-ce que c'est cette sorte de tempérament? Quel est ce rapport mythologisé de la violence qui est peut-être en train de s'effriter un peu? Peut-être que les hommes, je crois que c'est le cas, sont en train de changer, et qu'il y a quelque chose qui était mythiquement évident pendant longtemps, qui est en train de s'effondrer, cette évidence en tous les cas que la virilité et la violence sont associées et est en train de, voilà, je pense, de changer. Et donc il faut aussi fixer ça dans un livre. Il faut retenir ce qui est en train de disparaître et retenir l'imaginaire qui est en train de disparaître. C'est pour ça que pour moi la fiction, ça me semble être très évident, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement le réel, c'est notre rapport, c'est la manière dont on compose avec le réel, et donc c'est notre imaginaire. Et notre imaginaire, il est pétri de fiction. Nous sommes des êtres de fiction. Et donc, oui, pour moi, c'était très évident. Et j'aimerais aller vers encore plus de fiction. Je pense qu'on a vraiment besoin de récits pour se tenir dans le monde. On a vraiment besoin de récits qui dirigent notre imaginaire, nos gestes et nos corps. Voilà.
Ouais, la question de la fiction, je me la pose jamais vraiment dans le travail, contrairement à d'autres questions, comme vous disiez, par exemple, du choix de la personne ou du temps du récit. Ça, c'est des vraies questions de travail qui peuvent prendre beaucoup de temps. Mais la question de la fiction, pour moi, c'est une fiction. Mais en vérité, quasiment tous les blocs, toutes les parties de ce livre sont, on dirait, documentaires, c'est-à-dire viennent de choses vues ou vécues ou pas loin, en fait. Et la fiction, c'est une espèce de geste global qui permet de les assembler. En l'occurrence, là, sur ce livre, c'est de se dire, c'est pas une soirée en boîte de nuit, c'est des milliers, c'est un homme qui passe 20 ans. C'est ça, la légende, en effet, l'histoire qu'on invente. Mais sinon, j'ai l'impression que le travail principal, c'est surtout d'agencer des choses très, très réelles, quoi, très vécues, très... J'ai pas du tout l'impression de faire un gros travail d'imagination.
Non, mais... fiction n'est pas imaginaire. Enfin, bon. Non, je suis pas sûre que l'idée de fiction nécessite une projection de ce qui n'existe pas, quoi. Je crois pas que ce soit tout à fait ça, la fiction.
Bah alors, je sais pas trop ce que c'est. Moi, je me dirais que c'est ça, c'est la fiction, c'est le geste d'agencer, ouais, des choses ensemble.
Créer un monde qui se tienne dans un livre, peut-être. Je sais pas.
Pauline.
Mais je suis assez d'accord sur ce qui s'est dit à ma gauche. J'ai le sentiment d'avoir la même... moi, l'image que j'aime bien employer quand j'essaye de parler de mon travail, ou de comment, en tout cas, je l'envisage, c'est vraiment quelque chose qui aurait trait à l'artisanat et notamment à la poterie. De prendre le réel comme une espèce de glaise et de le malaxer jusqu'à ce que la fiction advienne, en fait, justement, jusqu'à... Et donc, c'est ce que j'aime bien faire, et dans toutes les formes d'écriture qui s'offrent à moi, c'est-à-dire à la fois le roman, mais aussi même les albums jeunesse, même la poésie, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment de comment... Parce que le réel brut, il n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, pas spécialement. Souvent, il est violent, il est triste, il est difficile à supporter. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le prendre, m'en saisir. Et ouais, j'ai vraiment cette image de malaxer la chose jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, quoi.
Est-ce que vous faites une différence dans votre travail quand vous écrivez pour la jeunesse, pour un album, ou quand vous écrivez de la poésie, ou quand vous écrivez un roman ?
J'ai un petit côté un peu schizophrénique où il y a vraiment le roman d'un côté et le reste des écritures de l'autre, où vraiment il y a beaucoup de joie et d'amusement et de récréation à écrire pour la jeunesse et écrire de la poésie et prendre des photos. Et en revanche, pour moi, le roman, c'est du côté un peu encore, malheureusement, de la souffrance. J'essaye de travailler ça, mais pour l'instant, c'est l'isolement, la solitude et la souffrance. Donc, c'est deux formes un peu d'écriture différentes.
On va en venir, si vous le voulez bien, donc à ce deuxième roman qui s'est publié aux éditions Gallimard. Ma première question portera sur la genèse de ce roman. Est-ce qu'il y a une image, une scène qui est à l'origine de l'acte d'écrire? Est-ce que ça vient d'une expérience vécue?
La scène d'ouverture qui se passe à la mairie où on suit la narratrice au service état civil où elle réceptionne sa carte d'identité qu'elle n'avait jamais eue puisqu'elle est élevée par des parents un peu fantasques qui n'avaient pas trouvé jugé bon de lui faire de carte d'identité avant ses 30 ans. Et du coup, c'est une scène pour le coup biographique qui m'est vraiment arrivée. Et donc, cette scène-là, le début de ce livre, c'est un pacte de bonne entente que je passe avec mes lecteurs. En fait, je leur dis, voilà, il s'est passé ça, et ça, c'est véridique. Et ensuite, pour le coup, la fiction peut démarrer. Mais ça, c'est une vraie scène, et je l'ai trouvée tellement improbable, tellement incroyable, que très vite, ça a été clair dans ma tête que ce serait l'ouverture du livre.
Alors, vous venez de parler de pacte avec le lecteur. Je trouve ça intéressant, parce que vous le formulez directement dans le livre. Vous dites, page 24, « J'écris pour savoir qui je suis. » C'est en tout cas la narratrice qui dit « J'écris pour savoir qui je suis et si je n'obtiens pas de réponse, alors j'inventerai. » Parce que justement, c'est une manière de dire aux lecteurs, aux lectrices, que ce qu'on va dire là, c'est effectivement de la littérature et pas juste un récit de vie.
Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment une manière, c'était une transparence totale. En fait, j'aime bien être honnête, j'aime pas la littérature qui dupe. De la même manière que ça raconte Sarah, j'avais pas envie que ça commence par la passion entre les deux femmes. Donc du coup, il y a trois pages de préambule où on comprend qu'en fait, ça va être dramatique, que ça va être même tragique, parce que si mon texte commençait trois pages après, on pouvait se laisser duper et penser qu'on allait avoir affaire à une histoire d'amour gay, sautillante, voilà. Et en fait, moi, ça me plaît pas. Donc dès le début, j'annonce la couleur. Donc là, en l'occurrence, pour ce livre-là, j'ai expliqué ça, que probablement que j'obtiendrai pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc du coup, j'allais écrire pour inventer.
Chacune des trois parties de ce roman s'ouvre sur l'une des questions kantiennes. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce choix d'utiliser Emmanuel Kant dans ce roman?
C'est un choix que je dois à mon professeur de philosophie de quand j'étais en Hippocagne et Cagne, qui par ailleurs est le père de Myantsen Love, enfin était son père puisqu'il est mort il y a 2 ans. Et c'est un homme qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a vraiment tout appris. Enfin, le peu de choses que je sais en philo, c'est grâce à lui. Et notamment, c'était un grand kantien et il m'a transmis l'amour de Kant. Et moi, ces questions-là, en fait, du moment où je les ai apprises et comprises, elles n'ont plus jamais quitté mon esprit. Et je pensais que les écrire dans le livre, ça allait suffire à ce qu'elles me lâchent un peu la grappe, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'y pense quand même tout le temps. Et notamment, cette dernière question qui est la troisième partie, que m'est-il permis d'espérer? Je trouve que voilà, c'est la question de la vie, en fait. Donc, pour ainsi dire, donc c'était très logique et pour moi très évident qu'elle vienne ponctuer comme ça mon livre, puisque c'est les trois parties de la quête de cette narratrice qui se matérialisait dans ces questions.
Vous écrivez, page 148, enfin, j'ai noté justement des phrases à la lecture de ce roman. Comme je n'ai pas envie de trop parler du processus de quête d'identité, en fait, de la narratrice, puisqu'en fait, il faut que le lecteur garde ce plaisir aussi de lecture et de la découverte. Mais quand même donner quelques clés. Vous dites, vous écrivez sans doute que c'est dans les histoires que l'on existe vraiment, que c'est dans la fiction que se dissimule la vérité, qu'il n'y a pas d'autre endroit où vivre. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement de cette idée que on ne peut pas vivre ailleurs que dans la fiction?
Moi, c'est une expérience que j'ai fait quelques fois de manière assez rare dans ma vie, mais assez rare pour qu'elle me marque à jamais. C'est-à-dire que il y a parfois des livres dans lesquels on plonge, et j'utilise ce terme de plonger vraiment à dessein, puisque pour moi, il s'agit quasi d'une expérience physique, des livres dans lesquels vraiment on tombe et où on se reconnaît, et bien plus que dans son propre miroir. Et c'est très rare, mais ça arrive. Et du coup, j'ai le sentiment que, en tout cas, moi, ma construction personnelle, elle s'est faite dans les livres, mais aussi dans d'autres fictions. Ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre, bien sûr, et aussi la musique et la danse. Mais que c'est dans ces expériences-là que finalement, j'ai trouvé beaucoup plus que dans des récits de famille ou dans des choses comme ça, la personne que je pense être, en tout cas.
Vous parlez même qu'il y a une idée qu'on peut trouver dans la littérature de quoi se constituer justement une identité. Et ce qui amène à la troisième partie du roman, puisqu'il y a un personnage qui est très important pour la narratrice, qui est Isée, qui est justement tirée d'une pièce de Paul Claudel. Pourquoi cette pièce-là? Qu'est-ce que Claudel représente pour votre narratrice? Et aussi les auteurs que vous citez en exergue de chaque chapitre, que ce soit Lagarce, que ce soit Duras, que ce soit Soulages, donc qui est peintre et pas un écrivain.
Alors, rien à voir entre Duras, Lagarce et Soulages que j'aime et que j'admire pour plein de raisons, et Claudel, que c'était vraiment le point d'interrogation de l'écriture de ce livre. C'était, est-ce que je vais vraiment écrire 50 pages sur Paul Claudel, alors qu'a priori, c'est un auteur que je n'aime pas, que dans la famille Claudel, moi, je choisis Camille, qu'il me semble rébarbatif, il me semble has-been, désagréable, enfin, tout un tas d'adjectifs. Et que en plus son théâtre me tombe un peu des mains. Est-ce que je vais faire ça? Et en fait, oui, je vais faire ça parce que j'avais le souvenir quand même adolescente d'avoir vu Le Soulier de Satin au théâtre, qui est une pièce qui dure 15 heures et que j'avais été complètement éblouie, que j'ai quand même un côté mystique, même si je suis complètement athée, mais que son côté mystique à lui me fascine et m'attire. Et donc j'ai fini par ne plus lutter contre ça accepter de lire Partage de Midi. Et en fait, j'ai ouvert Partage de Midi et je suis tombée vraiment en amitié, ou je sais pas comment dire ça, mais avec Isée, avec ce personnage de femme, je me suis sentie proche d'elle. Enfin, c'est hyper étrange de raconter ça comme ça, mais il y a vraiment eu un lien qui s'est créé avec ce personnage. Et je me suis dit, ok, je vais pas la laisser, quoi. Je vais les écrire, ces 50 pages, je vais le faire et on verra bien. Et en fait, finalement, c'est la partie que j'ai préféré écrire.
Et c'est important pour vous, justement, de faire entrer d'autres auteurs qui vous accompagnent d'une certaine manière, ou d'autres personnages littéraires, en fait, qui accompagnent cet acte d'écrire, donc de raconter une histoire.
J'aime bien que les livres soient généreux. J'aime bien que dans les livres, on puisse donner des choses et pas seulement de soi. Et donc, dans mes livres, je les imagine un peu comme les meubles que j'aime bien, des grands-mères avec plein de tiroirs. J'adorais quand j'étais petite, et dans chaque tiroir il y avait des trucs différents, les boutons pour la couture, et voilà. Et en fait, j'aime bien ça, l'idée que dans mes livres il y a plein de petits tiroirs qu'on peut tirer qui emmènent vers ça raconte Sarah. C'était beaucoup vers la musique, et là c'est beaucoup vers d'autres choses. Et que éventuellement, si on a envie, mais pas, on n'est pas obligé, mais on peut aller comme ça vers des œuvres qui évidemment me sont chères.
Blandine Rinkel, il est aussi question de littérature, d'une certaine manière, dans votre ouvrage. Celle qui nourrit, non, mais de littérature extérieure à celle que vous faites, bien évidemment, celle qui nourrit, en fait, votre narratrice, Lou, et aussi, d'une certaine façon, dont les auteurs et les autrices, à travers leurs textes, imprègnent, d'une certaine manière, notre quotidien. Il y a un moment, un passage, où vous parlez d'autrices comme Virginie Despentes ou Constance Debré, en disant, finalement, Gérard, le père, en fait, les apprécierait parce que c'est des femmes viriles, parce que c'est des guerrières, parce qu'elles se laissent pas faire, parce qu'elles sont féroces et indifférentes. En même temps, vous convoquez aussi d'autres auteurs et autrices comme Yakuta Alikazovic, Conrad ou Baptiste Morisot. En quoi, justement, ces auteurs, ces autrices ont exercé une influence sur votre manière d'écrire, ou pourquoi les avoir intégrés, justement, dans votre roman?
C'est pas tout à fait volontaire. Je crois que c'est vraiment lié, pour le coup, à la manière dont j'écris. J'écris en continuant des lectures, quoi. J'écris dans les marges, et parfois les marges, en fait, prennent 400 pages, mais dans les marges des autres livres que je lis, je fais ça depuis toujours, en fait. Je pense qu'avant d'être autrice, j'ose à peine dire écrivaine, mais avant d'être ça, je suis vraiment lectrice en tout premier, quoi. Je lis vraiment tout le temps. Et en fait, au tout début, j'avais une sorte de blog privé que j'ai toujours, où je recopie des textes des autres au fur et à mesure de mes lectures. Et parfois, quand je recopiais, j'étais insatisfaite de la phrase que je recopiais, parce que c'était pas exactement ce que je voulais lire. Et je voulais lire autre chose, en fait, je voulais dire autre chose, et donc j'ai commencé à écrire vraiment en reformulant ou en, ou en, en grossissant ou en, voilà, en complétant des lectures que je faisais. Donc assez spontanément, quand j'écris, oui, je le fais dans la continuité d'autres auteurs. Et là, dans les auteurs-autrices que vous avez cités, il y a beaucoup d'autrices-auteurs, on ne sait plus comment faire, de sciences humaines, d'essais. Ça, c'est peut-être la particularité, pour le coup, de ce livre et de la constellation de lectures qui l'ont entouré. C'est que j'ai beaucoup lu de choses sur l'animalité, sur notre rapport au sauvage, aussi des questions de genre. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme, être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est une femme, être élevée comme un homme? L'inverse, qu'est-ce que ça veut dire l'entremêlement des genres, et l'entremêlement des genres dans tous les sens du terme, l'entremêlement des espèces, l'entremêlement des genres. Enfin, donc c'est beaucoup de lectures comme ça qui ont bizarrement guidé en fait les métaphores du livre. Donc il y a des animaux, il y en a sur la couverture, qui m'ont permis le fait de parler de loups, de parler de chevaux, de parler de chiens, m'ont permis de formuler des choses que je n'arrivais pas à dire avec le champ lexical humain. De formuler des tempéraments, des gestes où j'avais l'impression de bloquer un peu avec les phrases qu'on a à notre portée dans le champ lexical des hommes, et donc j'avais besoin d'aller voir du côté des animaux. Et donc pour aller assez précisément voir du côté des animaux, j'ai lu beaucoup de choses de sciences humaines et sociales, et parce que j'en lis autant en fait que de littérature. Et je pense que justement les deux ont vraiment intérêt à se rencontrer, précisément avec mon histoire de mythe sur laquelle je reviens, parce que c'est ça en fait, le mythe c'est quoi? C'est créer des créatures, créer des personnages comme des créatures. Les créatures, c'est ce qui est moitié homme, moitié autre chose. Ça peut être je sais pas, moitié homme, moitié carafe, c'est une créature, faudrait savoir ce qu'elle a à nous dire, mais moitié homme, moitié loup, enfin. Et je trouve ça intéressant ce qui se passe dans les contes, dans la fiction, dans les mythes, ces créatures. Et j'aime bien, quand je lis de la littérature, trouver des créatures, parce que ça veut en dire plus sur notre monde de manière générale. Je sais pas si je suis claire.
Vous êtes très claire. Est-ce que c'est justement cette idée de créature qui est à l'origine de ce projet littéraire? Est-ce que c'est justement cette idée de créature en fait qui a été l'élément déclencheur de l'écriture? Est-ce que, même question que pour Pauline tout à l'heure, en fait, quelle a été est-ce qu'il y avait une scène que vous aviez en tête qui est arrivée comme ça et que vous avez envie d'écrire et qui a ensuite...
Non, l'étoile du berger, c'était le titre. C'était Vers la violence. C'était un titre qui indiquait une direction, hein, déjà. C'était un panneau signalétique. Et puis, en fait, j'avais eu l'impression, dans la manière dont j'avais défendu mes deux premiers livres, d'avoir montré un visage trop domestiqué, trop poli, et un visage que j'associais, à tort ou à raison, à tort sans doute, à quelque chose de trop féminin. J'avais eu l'impression d'être un peu rabaissée dans l'œil de l'autre parce que j'étais une jeune femme et je n'étais que ça, en tant qu'auteur. Autrice. Bon, débrouillez-vous. Et je voulais d'emblée, pour le troisième livre, aller vers quelque chose de plus âpre, de plus cru et de plus violent, en fait. Dire il y a quelque chose de plus sauvage en moi, et je suis un peu fatiguée de cette domestication à laquelle je suis acculée. Et donc vers la violence, et en fait vers la violence, et donc vers quelque chose de plus masculin. Enfin, je crois que c'est pas aussi simple que ça. Je crois que c'est pas masculin ou féminin, mais justement, il faut lire le livre pour le comprendre. Mais vers quelque chose de plus âpre, quoi. Donc c'est ça qui a guidé au départ l'écriture. C'est vraiment cette idée de violence, de noyau, je sais pas, viril, masculin. Et donc je voulais écrire sur des hommes, parce que en fait mes deux premiers livres, il était question que de femmes qui se regardaient, et j'adore regarder les femmes, et j'adore écrire sur les femmes. Mais là, je voulais vraiment me coltiner la question de la virilité, du masculin, de l'homme. Et au départ, j'avais un narrateur masculin qui regardait un autre homme. Enfin, c'était deux hommes qui se regardaient. Et puis, au fur et à mesure, parce que les choses ne sont pas si simples, ça a changé. Je me suis dit que c'était plus intéressant, au final, de récupérer un regard de femme et de raconter qu'est-ce que ça fait une femme qui est éduquée comme un homme. Qu'est-ce que ça change dans son corps, dans sa voix, dans sa manière d'être, et comment les genres s'hybrident à partir de là. Donc voilà, c'était ça. Il n'y avait pas de scène, vraiment. Il y avait des mots, en fait, vers la violence. Et puis après, je ne saurais pas la scène qui est sortie en premier.
En quoi vous paraissait-il important de dresser le portrait d'un homme duel, hein? En fait, il est fascinant, le père de Lou. parce qu'il a effectivement, il est violent, effectivement, il est terrifiant par moments, et pour autant, il a quand même beaucoup de faiblesses qui le rendent d'une certaine manière très attachant, très incarné. Et on est, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en fait à la lecture de ce livre, c'est que c'est un livre qui est quand même, malgré la violence et les scènes qui sont décrites, extrêmement nuancé. En quoi justement, c'était quelque chose peut-être. Est-ce que c'était quelque chose de naturel pour vous dès le départ, justement, d'apporter cette nuance et cette dualité au personnage ?
Oui, parce que je crois pour le coup que c'est une affaire de tempérament. Dans la vie, de manière générale, j'ai du mal à en vouloir aux gens. Et j'ai du mal à désigner des coupables. C'est-à-dire que les coupables, dès qu'ils sont désignés comme coupables, je vois comment ils sont victimes aussi. Enfin, ça se retourne, quoi. Dès qu'on me dit... voilà, cet homme ou cette femme a tort, tout de suite je me dis ouais, mais du coup en quoi elle peut avoir raison? Ça se retourne en permanence, et donc ça c'est une affaire de tempérament, donc de manière assez évidente oui, ça m'intéresse toujours de montrer la complexité en fait des gens qui nous entourent, et après oui, dans le personnage de Gérard, je voulais évidemment aussi qu'il soit contradictoire, parce que les personnages sont touchants seulement s'ils sont contradictoires. Enfin, je veux dire, les gens qui nous touchent dans la vie, c'est aussi leur contradiction qui nous touche. Enfin, je crois pas qu'on aime quelqu'un qui est d'un seul bloc. Enfin, en tous les cas, moi, ça ne m'arrive pas. Parce que soudain, quand je suis désarmée par quelqu'un, c'est parce que je vois sa contradiction ou son paradoxe. Et puis, donc, dans le cas de Gérard, précisément, ce que je trouvais intéressant, c'était de décrire comment un homme violent, un homme qui est assez évidemment... violent sur son chien, dans sa manière de menacer sa femme, son enfant, enfin voilà, un homme violent, est aussi un homme qui, par des voies paradoxales et un peu insoupçonnées, vous vitalise. Et ça, c'est un petit peu tabou de parler de ça, des liens secrets entre une certaine violence et une certaine vitalité. Et j'aimais bien que ça soit tabou. Je me suis dit, tiens, puisque je suis un peu gênée de penser ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à écrire, quoi. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose à écrire quand on éprouve du malaise, de la gêne, quelque chose qui... C'est pas évident. Et donc, oui, il est aussi paradoxal ou contradictoire en ça, c'est-à-dire qu'il est aussi fascinant que terrorisant, et il est aussi vitalisant qu'amoindrissant, parce qu'il fait réellement peur, il fait vraiment peur à sa fille, elle le craint profondément, et en même temps qu'elle le craint, elle l'admire et elle a vraiment envie de vivre selon son imaginaire, sous l'égide de son imaginaire. Et c'est un ogre, en fait. Un ogre, dans ce que ça a de plus enfantin, c'est un ogre que les enfants craignent, et en même temps, ils redemandent qu'on leur raconte l'histoire de l'ogre. Et voilà, c'est cette dualité-là que je trouvais intéressante, et que je trouvais peut-être aussi peu présente dans les médias, dans la manière dont on parle de la violence masculine voilà, au quotidien dans les médias. Je trouvais peut-être qu'il y avait quelque chose d'un peu univoque dans cette manière de parler de la violence. Et il me semble que pour la regarder bien en face, pouvoir y échapper aussi, hein, pouvoir y échapper, ben, il faut voir ce qu'elle a aussi de vitalisant. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on y va. Pourquoi on est finalement bizarrement à la fois attiré et pétrifié par la violence.
Et c'est pour ça que vous l'opposez à l'animalité, justement. C'est pour ça que vous l'opposez à l'animalité. Ce qui va se passer avec le personnage d'émancipation, en fait, là, il y a un moment où la narratrice s'émancipe quand même de cette violence-là, même si elle en est imprégnée, pour se tourner vers une certaine forme. Enfin, vous faites un parallèle entre l'animalité et aussi la danse, parce que la danse est quand même très présente dans ce livre-là. Vous êtes vous-même danseuse. En quoi, justement, cette pratique de la danse, ça permettra de faire une transition avec le livre de Victor, justement, vous permet de dire quelque chose?
Ben... Je ne sais pas si je l'oppose à l'animalité, la violence, je crois. Enfin, non. Enfin, les figures d'animaux que j'ai utilisées sont justement doubles, sont à la fois complètement innocents et complètement violents. C'est ça qui est fascinant chez l'animal. Enfin, c'est ça que j'observe en tous les cas chez mon chien. C'est que les moments où il est le plus joyeux, c'est les moments où il est le plus agressif aussi, assez spontanément, quoi. Donc ça m'intéressait. Mais pour répondre sur la danse, je pense que mon personnage, Lou, cherche à s'émanciper d'une forme de fatalité, c'est-à-dire qu'elle hérite de la violence de son père. Elle c'est la fille de son père, donc elle a le même, enfin pas le même corps justement, mais au départ c'est la fille de son père, donc elle hérite de ça, elle hérite d'une pulsion de violence, et elle va chercher quand même à s'émanciper, à transformer ça, à le changer peut-être en ardeur, quelque chose comme ça. Et oui, elle parvient à ça par la danse, mais aussi par l'humour, mais aussi par l'amour, en fait, par tous les endroits dans la vie où on peut retrouver une sorte de sauvagerie intime, où on peut s'émanciper soudain des codes sociaux trop rigides, trop normés, qui nous enferment, qui ont quelque chose de carcéral pour nous. Et c'est ça qu'elle cherche ardemment, quoi, à retrouver une forme de liberté, de sauvagerie, et à finalement hériter de ce tempérament abrupt, violent, enfin, hériter de ce corps en mouvement, quoi, qu'elle hérite de son père, mais sans que fatalement ça se transforme en une manière de dominer l'autre. En fait, comment est-ce qu'on peut être ardent, être irrigué de vie? Sans vouloir contraindre et sans vouloir dominer. Et c'est vrai qu'elle trouve une sorte de porte de sortie par la danse, par l'art, par l'humour, par voilà, quelque chose comme ça. Sauvagerie retrouvée.
Victor Gestin, est-ce que justement votre personnage, Arthur, a la même conception de la danse que le personnage de Blandine?
Non, je pense que moi, j'ai pas la même conception que Blandine. C'est-à-dire que, pour parler vraiment du début du livre, il est parti du sentiment très désagréable de ne pas savoir danser. Ça, c'est ma situation. À chaque fois que je me suis retrouvé en boîte de nuit ou dans d'autres endroits où il faut le faire, j'ai pas pu. Et on s'entend dire souvent des choses très, très, très banales, comme quoi il suffirait de se lâcher ou de se lancer. Et ça, c'est agaçant parce que on sent bien que c'est plus compliqué que ça. Et donc, c'était cet affect-là. Très désagréable, qui était au départ du livre. Là arrive le personnage, ce sentiment qu'on a sur sa banquette, de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir se synchroniser, d'être arythmé, déphasé, désynchronisé. Mais lui, il le ressent, non pas seulement sur une banquette de bonne nuit, mais partout, en fait, dans sa vie. C'est vraiment ça, c'est le malaise général de cet homme, c'est celui-ci, c'est-à-dire à l'école, en famille, partout où il se rend. Il y a comme une vitre entre lui et les autres, une difficulté à leur parler, chose qui nous concerne tous à différents degrés. Lui, c'est radical, pathologique, quoi. Et lui, contrairement à moi, il va trouver cet endroit, cette boîte de nuit, qui est vraiment le cœur du livre, une espèce de décor qui revient obstinément à chaque chapitre. Il va trouver cette espèce d'espace-temps parallèle qui est retourné, hein, le monde retourné, on marche pas, on danse, les regards jouent, le corps joue, enfin, même peut-être la texture du sol, la densité de l'air, tout est comme différent. Et lui, là-dedans, d'un coup, hop, ça marche, il est dans son bocal, et il peut toucher les autres, dans la foule. Après, vient l'idée un peu perverse du livre, évidemment, c'est que plus il s'enfonce dans ce lieu, plus il se rapproche des autres, plus il creuse son trou, puisque c'est pas tenable, en fait, de vivre la nuit. Ça c'est aussi un des aspects du livre, c'est-à-dire que si on s'enfonce là-dedans pour essayer d'être heureux, on est rattrapé par le temps, par l'argent, par la paperasse, les jugements, la fatigue, et en fait, on se retrouve seul. Donc c'est quand même l'histoire d'abord d'un homme seul, de plus en plus seul à force de vouloir sortir de sa solitude. Voilà les deux mouvements. Donc sa conception de la danse, elle est très heureuse, c'est-à-dire que c'est sa façon de toucher les autres. Mais je pense c'est comme une drogue, mais ça pourrait être autre chose. Ça, lui, il va dans une boîte, mais on peut aller dans plein d'endroits. On peut se droguer, ça peut être à travers son propre corps. Il est question de musculation aussi. Ça aussi, c'est une façon d'approcher les gens. Enfin, il y a mille façons, en fait, de s'enfermer quelque part pour réussir à exister. C'est quand même un peu un livre aussi sur une addiction, quoi. Une addiction à la nuit, à ce que promet la nuit, de rencontres permanentes. Il y a quand même ça qui motive les gens qui sortent beaucoup. Souvent, ils le disent, ce soir-là, c'est bon, quoi. Ce soir-là, je vais choper. Ça. Ou alors, je vais rencontrer l'amour, ou alors, je vais me mettre une énorme caisse. Et ça va. Il y a toujours une espèce d'horizon que le jour ne peut pas promettre, comme trop corseté, trop organisé déjà, quoi. La nuit a quelque chose de plus anarchique qui permet de faire un énorme déni, en fait. On peut foncer tout droit dans le mur, comme ça.
Vous évoquez une de ces craintes, d'ailleurs, dans le livre, qui est la peur de manquer quelque chose, hein, « Fear of missing out », en anglais. C'est quelque chose de plutôt récent, ça, comme crainte, hein. La peur de rater quelque chose en soirée, si on n'est pas là.
Bah oui, enfin, plus on est informé, plus on est sujet à ça. Donc, exemplairement, moi, je pense qu'on l'a tous connu. Moi, je me souviens, c'était un truc assez fort au lycée de sentir que tout le monde sortait le samedi. Et moi, pour une raison, je pouvais pas y aller. Parfois même, juste parce que j'avais pas envie. Et pourtant, dans mon lit, j'étais agressé par la fête des autres, quoi. Comme si elle était tournée vers moi, comme si elle était là en premier lieu pour me faire violence, leur joie, leur fête. et j'y suis pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est aussi un sentiment, c'est marrant, qu'on peut ressentir, par exemple, si quelqu'un avec qui on n'a pas envie de parler nous parle, on a soudain l'impression qu'on est en train de rater une conversation passionnante à côté, quoi. Et on a envie de s'extraire. Donc ça, c'est un faux mot, oui, fear of missing out. Et c'est en effet une des choses qui meut ce personnage, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix de la boîte de nuit, qui est un non-lieu littéraire? Enfin, la boîte de nuit est présente dans la littérature des années 90. On pensait au roman sous coque chez Grasset des années 90. Et là, c'est pas la boîte de nuit paillette, soit aux États-Unis, enfin, soit à New York, soit à Paris. On est dans une petite ville en périphérie, vraiment la boîte de nuit qui est sur le parking, loin de tout. Dans votre premier roman, vous traitiez du camping, alors en pervertissant aussi le roman estival, puisqu'on n'était pas du côté de Fabien Antoniente, mais plutôt du Second Island de David Vann. En quoi ça vous intéresse justement de traiter de lieux qui, a priori, ne sont pas forcément des endroits sur lesquels on écrirait?
D'abord, c'est des lieux que j'ai beaucoup traversés, comme un somnambule, c'est-à-dire sans trop réaliser ce qui me faisait quand j'y étais, le camping, l'adolescence, les boîtes de nuit, plutôt 20 ans, 22, 25, 28, encore aujourd'hui. Et seulement après, il y a un double mouvement. Après, je me retourne et je me rends compte que ces endroits m'ont violenté, intéressé, et là, j'écris dessus. Donc, c'est pas un choix d'aller sur un terrain peu labouré. Si ce n'est qu'en réfléchissant à la boîte de nuit, pour le coup, les représentations de la boîte de nuit, j'avais quand même identifié des modes d'approche qui me semblaient rater des choses. Soit, en effet, c'est la coke, c'est-à-dire le clinquant de la drogue. Il y a aussi la mafia. On peut voir dans les films d'action, notamment la boîte de nuit comme repère de gangsters. Et puis aussi, plus énervant encore, la boîte de nuit comme stroboscope géant. C'est-à-dire comme façon, surtout au cinéma, de se payer une scène un peu clippée, flottante. Mais en fait, rarement j'ai vu la boîte de nuit, sinon dans un roman de Guillaume Dustan que j'adore, Je sors ce soir. Voilà. C'est une soirée en boîte, très documentaire pour le coup, juste il décrit ce qu'il fait. Très rarement, je l'ai vu explorer comme un territoire, quoi. Vraiment un territoire complexe, avec des zones, avec des hiérarchies sociales agrégées à ces zones, avec 2 mètres qui parfois paraissent simplement 2 mètres, et pour d'autres, c'est un fossé, c'est un gouffre, on ne peut pas les franchir. En fait, c'est un espace très compliqué. S'ajoute à ça un microclimat, des odeurs, évidemment, des corps, beaucoup de choses qui sont comme des excitants pour écrire, dont j'ai besoin pour. Comme d'une couleur pour sentir le projet, quoi. Voilà, non, mais c'est évidemment un terrain qui m'a passionné, et aussi évidemment socialement, quoi. Ce qui se passe dans cette boîte de nuit qui n'est pas une boîte de nuit très très branchée de grande ville, c'est comme vous dites, une petite boîte de nuit sur un parking. C'est le Macumba, quoi. En gros, le cliché du Macumba, c'est des boîtes très hétérosexuelles, très normées, où les hommes doivent être des chasseurs, je dirais, et les femmes doivent être des proies. Donc donner envie d'être chassé, c'est l'ordre qui c'est voilà, c'est l'injonction qui est faite. Après, il y a des gens qui sortent de ces choses, heureusement, mais globalement c'est ça, quoi. La violence est là comme ça. Donc c'est aussi là, je pense, toute une autre partie du projet, c'était de voir comment un homme, c'est un humain cette personne, mais c'est aussi un homme, un mâle, quoi, comment un homme se construit là-dedans, et comment de rite en rite, puisque le roman c'est 20 ans, et chaque chapitre, c'est une partie de sa vie, une soirée dans cette boîte de l'adolescence jusqu'à ses 40 ans. Comment, de rite en rite, d'année en année, il se fait détraquer, déglinguer, bousiller par des rencontres avec d'autres hommes, essentiellement. Par exemple, il y a une scène au début du livre, moi, que j'ai vécu, et je pense que beaucoup de garçons ont vécu, c'est des scènes de masturbation collective. C'est-à-dire qu'on est ensemble entre copains, on regarde la télé, moi je me souviens qu'on regardait des clips d'MTV, et soudain on dit, comme dans les vestiaires, quoi, on va se masturber ensemble. On met un petit coussin pour se cacher, mais franchement, il suffit de regarder au-dessus et on voit tout, quoi. On fait ça. Et ensuite, on se monte notre mouchoir souillé, comme une sorte de tête d'adversaire décapité, quoi, de preuve. Voilà, moi, je me souviens de ça. Et même pour aller au bout du truc un peu gênant, je me souviens que moi, j'avais pas de sperme et que donc j'urinais sur mon mouchoir. Vous voyez, en fait, je raconte ça parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve ça hyper violent. Et ensuite, parce qu'en y réfléchissant, je pense que ce rite-là, archaïque, il a des déclinaisons à d'autres moments, quoi. Quelle est la différence entre ce truc horrible et 3 hommes en boîte qui disent « Ouais, je l'ai chopé ». C'est quoi la différence? Et après, plus tard, si on est un peu malin, en fait, on se déguise, on met un costard, on parle de littérature, mais en fait, on peut identifier encore ce rite qui revient sous des formes déguisées, plus acceptables. Mais donc, il est question de choses comme ça qui construisent cet homme, enfin qui le, on dit déconstruire, mais là qui le détruisent plutôt. Voilà.
Vous parlez de rites, vous parlez de construction sociale. Il y a un côté quand même très sociologique dans ce roman. Effectivement, on voit les rapports entre les différents protagonistes, que ce soit des personnages, que ce soit la foule dans la boîte de nuit. Tout est extrêmement codifié. Est-ce que cet aspect en fait sociologique, il y a plusieurs aspects. Il y a aussi la notion en fait de disparition progressive des boîtes de nuit. Enfin, il y a un côté de témoignage aussi dans ce livre-là du déclin de la boîte de nuit qui n'existe pas. Qui à terme en tout cas est amené à disparaître, puisque finalement les utilisateurs de ces endroits-là ont trouvé d'autres moyens pour faire des rencontres. Le lieu de rencontre n'existe plus. Et je voulais savoir si justement cet aspect, cet horizon sociologique, voire même anthropologique par moment, c'était quelque chose à atteindre pour vous dans votre écriture.
Je pense que c'est un endroit où je suis assez maladroit. Moi, les romans qui m'ont marqué, c'est, je dirais, des romans comme ça, un peu assez peu politisé, assez peu, vous voyez, avec peu d'extérieur. Souvent, c'était des choses très intimes parce que voilà, mon tempérament va vers ça. Mais là, je me rendais bien compte qu'il y avait ce sujet et qu'il fallait aussi un peu le saisir parce qu'il est intéressant. En effet, les boîtes de nuit, ces endroits, alors c'est le déclin d'un homme, mais c'est aussi le déclin d'une entreprise et d'une façon de faire la fête, d'une façon d'essayer d'être heureux qui est en train de mourir. Le Covid a accéléré ce processus, mais pas seulement. En vérité, ça fait longtemps que les applications de rencontres, le développement des festivals, des bars concepts, et puis des choses à la con, type les fouilles en sortie de boîte, de se faire fouiller, quoi, pardon, l'état d'urgence. Plein de choses comme ça qui ont fait que ce mode-là de fête, il décline. Et les statistiques sont terrifiantes. Les boîtes de nuit, ils ferment. Moi, j'ai trouvé un super livre photo, c'est un gars qui a fait le tour de France et qui a photographié des devantures de boîtes de nuit en plein jour. Donc c'est des photos un peu déprimantes de parking avec des faux palmiers, sans les néons éteints. Et, oui, et en fait, c'est aussi ce livre, il est émouvant parce que c'est une sorte de livre des morts, quoi. Si on le lit aujourd'hui, la moitié des boîtes photographiées, elles ont fermé. Moi, toutes les boîtes que j'ai traversées, essentiellement à Nantes ou aux alentours où j'ai grandi, dont je me suis inspiré pour écrire, elles ont fermé. Donc c'est le déclin de ça. Et je dirais aussi, à travers ce déclin-là, une question de génération aussi. On croise dans ce roman des hommes qui ont été les rois du monde en boîte dans les années 80, 90, même 80, et en fait qui arrivent et qui peuvent plus pour mille raisons. Par exemple, il y a le Me Too passe par ce roman sans être nommé, mais il y a un moment un homme qui dit voilà, on peut plus, c'est plus comme avant, quoi. Et on devine en fait qu'on est en 2017 ou après, et que voilà, c'est en fait c'est un déclin général, quoi. Alors ça, c'est plutôt tant mieux, celui-ci est plutôt triste. Pour l'aspect fête, parce que par exemple, il y a des boîtes de nuit dans cette petite ville, exemplairement, quand il n'y en a qu'une dans une ville, les bars ferment à minuit, et quand la boîte, on l'enlève, il y a plus trop de façons de se rencontrer. Enfin, cet endroit-là, cet espace de ce carrefour social, pour certains, il est extrêmement important, quoi. C'est ça aussi que le roman voulait rendre. Il est globalement triste et déprimant sur cet endroit, mais c'est aussi l'histoire d'un lieu, d'un petit paradis, quoi, d'un petit havre où quand même on peut, quand on n'arrive pas au quotidien à se rapprocher des gens, on peut le faire là-bas.
Alors c'est sur cette note un peu déprimante qu'on va conclure ce soir. Je vous remercie tous les trois d'être venus ce soir. Je rappelle le titre de vos ouvrages, donc Qui c'est, de Pauline de Labroalard, publié chez Gallimard. Vers la violence de Blandine Rinkel, publié chez Fayard, et L'homme qui danse de Victor Gestin, publié chez Flammarion. Merci beaucoup. Et maintenant.